Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Et merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain qui balaye des préjugés et Bertrand Chamerois pour son écran de veille capillaire qui balaye des balayages. Notre invité, c'est le réalisateur Fabio Toniente. Il sera avec nous pour son nouveau film 100% bio. Diffusé ce soir sur France 3, Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une sélection spéciale 2021 avec les albums les plus attendus de l'année écoutés par Angèle Châtelier et le jeu vidéo à découvrir au plus vite avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Comment ça va ce matin ?
Oh, ça va très bien. Écoutez, j'avais peur qu'on s'ennuie un peu en 2021, mais là je suis rassuré parce que l'année démarre en fanfare. Hein. Et alors attention, pas n'importe laquelle. Hein. Une fanfare qui tire en même temps un feu d'artifice tout en étant positionnée sur des chapeaux de roue pour déposer une cerise sur les gâteaux de la fanfare de compète. On se remettait seulement du tirage du loto des 35 citoyens tirés au sort pour donner leur avis sur la stratégie vaccinale que...
Revenons à la question quand même essentielle en ce début d'année. Le lissage de Marlène Schiappa, vrai ou faux ?
Ouais. Oh là là. On est sur un très gros dossier à faire pâlir Bob Woodward et son Watergate. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté a-t-elle fait un lissage brésilien et a-t-elle été rémunérée pour en faire la pub ? Ça démarre fort 2021. Revenons aux racines de la polémique.
Ah.
Pour ceux... Oui, bref, fallait bien. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, prenez un baudrier parce qu'on va descendre pas mal. Hein. C'est de la spéléo, c'est House of Cards, mais scénarisé par AB Productions. Dimanche soir, sur son compte Instagram officiel et certifié, Marlène Schiappa nous présente ses meilleurs vœux pour 2021. C'est le verlan de cheveux. Excellent. Dans une vidéo d'elle jetant sa chevelure au ralenti de dos, très pub des années 90, accompagnée d'un message de remerciement pour le salon à l'origine du lissage en question. Or, les ministres n'ont pas à promouvoir ou favoriser d'entreprises privées. Très vite, la vidéo est supprimée, le compte passe en privé et l'entourage de Marlène Schiappa parle de faux posts, de fake news ou nie carrément l'existence de cette vidéo. Je peux vous dire que Donald Trump à côté qui demande qu'on lui trouve des voix en Géorgie, c'est vraiment un petit joueur. Et là, c'est l'emballement. Les hypothèses fusent jusqu'à être prises dans les JT, comme ici, le 12-45 d'M6.
Cette femme ressemble à Marlène Schiappa et le sapin de Noël ressemble à celui installé dans son salon.
Mm-hmm. Intéressant. Mais les plus fins lignés, c'est sur la 8 qu'on les trouve. Bah attendez, c'est la chaîne de l'inspecteur Barnaby, donc les enquêtes, ça les connaît. Écoutez l'analyse de William Lémergie le midi sur le sujet, enfin que dis-je, de Fabio Salsa à Lémergie. Pour lui, ce n'est pas elle sur la vidéo.
Vous savez quoi ?
Dites-moi.
J'ai un doute.
Sûr ?
Je sais pas si c'est elle, Marlène Schiappa.
Est-ce qu'elle a été piratée ou non ? On peut se poser la question. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que quelqu'un imite parfaitement la chevelure de Marlène Schiappa.
Oui, justement, j'ai l'impression, d'après ce que l'on voit
régulièrement,
non, ce sont pas. Elle les a plus bouclées.
D'habitude, oui, mais c'est justement le but d'un lissage brésilien, William, c'est de ne plus avoir les cheveux bouclés.
Oui.
30 ans de chronique beauté dans Télématin et pas de calé en lissage. Je suis un peu déçu, William, là. Mais l'histoire du lissage ne s'arrête pas là. Dans l'après-midi, l'avocate de Marlène Schiappa publie un communiqué niant tout placement de produit ou poste sponsorisé et menaçant de poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires. En revanche, à aucun moment, le communiqué ne stipule qu'il est interdit de souligner la communication désastreuse dans cette histoire. Donc, puisque c'est permis, disons-le, sur ce dossier, c'est les sous-doués font de la com. En moins de 24 heures, il y a eu publication de la vidéo, retrait de la vidéo, affirmation qu'il s'agit d'un faux poste ou d'un piratage, puis papier d'avocat mettant en garde ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un placement de produits rémunérés, mais ne niant plus l'existence de la vidéo. Bref, c'est nawak et c'est pas fini. Nouveau rebondissement à 16h13 avec ce tweet. Marlène Schiappa au cœur d'une polémique. Ce soir, en exclusivité, son coiffeur sera dans TPMP pour nous dire toute la vérité. Hashtag lissagegate. Oui, ils ont invité le coiffeur et il a accepté de venir. Alors que je rappelle qu'il y a quelques heures encore, ni le lissage ni la vidéo n'étaient censés avoir existé. Une masterclass de communication de crise et de souplesse, parce que c'est pas évident de ramer tout en rétropédalant. Bref, résumé des révélations exclusives.
Là, Marlène Schiappa est venue dans votre salon. Elle est restée combien de temps ?
2h30.
Vous nous avez amené la facture. Exactement, rituel renaissance, Marlène Schiappa, donc la facture, 150 €.
À quel moment ça a merdé ? Dans une époque pas si lointaine, les affaires d'État avaient de la gueule. C'était des stocks de masques brûlés, du détournement de fonds, des écoutes, des comptes en Suisse. Il y avait des ministres qui allaient nier en bloc et en détail chez Bourdin. Maintenant, on se retrouve avec le coiffeur d'une ministre déléguée invitée en exclu dans TPMP pour expliquer facture à l'appui qu'elle n'a pas été rémunérée pour son post Instagram sur son lissage brésilien. C'est quoi cette époque ? Un peu de panache, merde ! Ah, quand je vous disais que l'année démarre en fanfare, on est que le 5 janvier, je suis déjà épuisé. Je crois que je vais descendre ici. Vous continuez l'année sans moi si ça vous dérange pas.
Ouais.
Je suis pas hyper impatient d'entendre le prof de Zumba de Jean-Michel Blanquer sur Non-Stop People.
Merci Bertrand Chamorro. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a encore une polémique au sujet de ce prix. Mais on va passer...
Bon.
Eva, on est content
j'ai
que vous soyez là.
J'ai pas fait le massage brésilien ce matin, excusez-moi. Je suis pas coiffée.
Vous n'êtes pas le bon coiffeur. Non. C'est l'heure de votre zapping. Les programmes ne paront manquer ce soir, selon vous, Eva. Le thème fédérateur.
Alors, ce sont les préjugés. Les a priori, ces idées qui s'infusent en nous et qu'il est parfois difficile de combattre. Sur un plan historique, par exemple, quand on parle de la Suisse, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est...
Neutralité.
Ouais, la neutralité, exactement.
J'allais dire chocolat.
Ouais, chocolat, non mais historique, j'ai dit Philippe. Eh bien, un des volets de la formidable série documentaire Les coulisses de l'histoire examine de près le sujet et va démonter cette idée de neutralité. La Suisse a tenté de maintenir pendant la Seconde Guerre mondiale des liens avec tous ses partenaires, y compris avec l'Allemagne nazie. Les banques, par exemple, ont accepté de blanchir l'or volé par le régime hitlérien et les usines ont marché à plein régime.
L'horlogerie suisse, par exemple, ne se contente plus de fabriquer des coucous. Avec la guerre, elle se met à produire les meilleurs détonateurs du marché.
Des détonateurs, donc, et des armements qui ont alimenté l'effort de guerre allemand. Vous découvrirez également comment de grandes entreprises ont mis en place les lois antisémites et autres secrets suisses qui mettent à mal cette notion de neutralité. Je vais y arriver, pardon. C'est extrêmement intéressant. Sur France 2, les préjugés sont au cœur d'un documentaire remarquable intitulé « La disgrâce ». Le réalisateur Didier Cros a recueilli les témoignages de 5 personnes défigurées suite à une maladie ou à un accident. Ce sont des gueules cassées. Jenny, par exemple, gravement brûlée quand elle était enfant. Elle m'a particulièrement émue. Écoutez ce qu'elle dit.
Je m'interroge parfois sur le visage que j'aurais pu avoir si je n'avais pas eu mon accident. Alors je pourrais peut-être voir le visage que j'ai eu le jour où je mettrai un enfant au monde. S'il a plus mes gènes, de me dire je ressemblerais à ça si je n'avais pas été brûlée.
Ça, c'est bien.
Ce sera mon miroir, mais mon miroir sans cicatrice.
Alors Jenny, elle ne compte plus les opérations sur son visage. Le documentaire évoque d'ailleurs les prouesses de la chirurgie en matière de reconstruction. Mais elle reste résolument optimiste et écoutez ce qu'elle raconte avec humour.
À carnaval, de temps en temps, je mets des petits traits de maquillage comme ça. Dépend le déguisement que je fais. Mais très souvent, je me dis, j'ai rien besoin de faire en fait. Et moi, j'en joue de ça.
Les témoignages de ces hommes et de ces femmes sont bouleversants. Et puis, ils ont accepté de faire une séance photo dans les studios Harcourt. Et vous allez comprendre comment une séance photo devient aussi une séance thérapeutique. Alors, je vous récapitule la soirée. Les a priori historiques, c'est dans les coulisses de l'histoire sur Arte, à partir de 20h50. Et le documentaire à voir absolument, La disgrâce, est diffusé sur France 2 à 23h10 ou en replay si c'est trop tard pour vous. Voilà.
Merci beaucoup, Eva Roch. Merci, Bertrand Chamorro. Avec
demain.
Ou sans lissage. Dans un instant, on sera avec le réalisateur Fabio Toniente.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Fabien Antoniente.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, faut-il le dire, l'un des cinéastes les plus populaires de France. Je vais citer 3-0, Jet Set, Disco ou Les Campings 1, 2 et 3. Là, vous sortez un nouveau film, mais pas au cinéma, à la télévision. C'est ce soir sur France 3, ça s'appelle 100% Bio. C'est avec Didier Bourdon, Catherine Jacob et Lolita Chama. Vous dites rêver que vous rêviez depuis plusieurs années de raconter cette histoire qui se déroule au Pays Basque. Vous rêviez de l'histoire ou du Pays Basque ?
Je rêvais des deux. C'est-à-dire que le Pays Basque m'a amené l'histoire, puisque je côtoie beaucoup de personnages, comme on peut voir celui de Didier Bourdon, le charcutier, parce que là-bas, évidemment, c'est un film en fait qui a une essence dans le monde d'avant et qui a trouvé sa résonance dans le monde d'après.
Bande annonce.
À votre droite, le père, basque, caractériel et charcutier.
Tiens, régale-toi. Ok.
À votre gauche, le gendre parisien. Zen et vegan.
Graines de cucanfar contre saucisson.
Vegan.
Le match est lancé.
Comment ça, il est trop épais, mon jambon ?
Je vais l'ambiancer, le basque.
Ah ah ! Ouais ! Qu'est-ce que tu crois ? On t'a attendu pour être bio ?
Si !
Non !
Si !
Non !
Si !
Non !
Si !
Inédit.
On en est où, là ?
100% bio, apprenez le vivre ensemble avec Didier Bourdon, sur France 3.
La voix off dit « Le match est lancé ». C'est quoi ce match et qui sont les protagonistes ?
Bien, c'est l'histoire d'abord d'un charcutier très très basque et très très têtu qui un jour voit sa fille arriver avec un vegan. Et là, les salades commencent. C'est le télescopage que j'aime bien provoquer dans les comédies. Donc là, évidemment, c'est le charcutier qui voit arriver un vegan. Donc pour lui, c'est toujours un peu... C'est quelque chose d'étrange.
Ouais.
Mais la cohabitation et le bien vivre ensemble va faire qu'ils vont pouvoir échanger. Mais moi, j'aime bien mettre des gens qui n'ont rien à voir dans le même récipient. et voir quelle précipité s'en dégage.
Il y a une autre dimension qui est familiale, c'est que sa charcuterie, ça marche pas trop bien. Il a 3 enfants, il a le tachama, il a 2 garçons, et aucun ne veut reprendre la charcuterie.
Ben c'est souvent ce qui arrive dans certaines régions, la transmission, parce qu'ils ont quand même des magnifiques savoir-faire, ces gens-là. Partout où je vais, dans certaines provinces, je vois qu'il y a des belles traditions ancestrales, et les enfants sont pas toujours prêts à reprendre le flambeau. Et là, cette charcuterie qui part un peu en lambeaux, on va dire, les enfants ont d'autres aspirations, comme s'occuper de l'écologie, de la planète, de surfer, c'est ce qui est une des activités principales.
Surfer au sens propre du terme, il fait vraiment du surf, il ne fait pas du surf sur Internet.
Voilà. Et l'autre qui préfère être rugbyman et vivre en faisant pas grand chose. Donc finalement, le père est très malheureux, et là, évidemment, il voit arriver sa fille avec ce vegan, ça lui provoque beaucoup de chagrin.
On peut le dire parce que c'est au tout début du film, et c'est plus que sa fille, c'est qu'il va être grand-père.
Voilà.
C'est qu'il va être le grand-père d'un petit enfant de vegan. Alors, comme dit l'un des fils au futur gendre, il lui dit, écoute, tant que t'es pas landais, ça peut s'arranger. Il dit vegan, c'est ça, mais tant que t'es pas landais, il y a vraiment un problème entre les Basques et les Landais, parce que vous en parlez beaucoup dans le film.
Oui, il y a une vraie...
Je précise que vous habitez là-bas, sur place, vous connaissez bien le problème et le contexte.
Je connais bien le problème, et j'entends souvent parler de ces fameux Landais, qui sont pour eux des gens du Nord, des pignés, et qui ne connaissent rien à la vie. Eux, ils sont quand même très éduqués. Et l'autre jour, je circulais en voiture avec un copain basque, et il me dit, regardez ces Landais. Ils ont appris, ils ne savent pas conduire. Parce qu'en fait, chez les Landais, ils ont des routes toutes droites et ils ne savent pas prendre des virages. Ça, c'est par exemple des cas typiques qu'il y a dans ces régions. Il y a des antagonismes complètement ridicules, mais qui me font rire.
Alors, à propos de rire, justement, quelle différence entre les Landais et les Basques? Eh bien, toute la différence est racontée dans une blague, justement, entre le fils et le gendre.
Tu connais la différence entre les Landes et le Pays Basque?
Non.
Bah dans les Landes, t'as un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con.
Et au Pays Basque?
Eh ben, y a pas de pain.
Pardon, ça me fait encore rire. C'est comme ça, ils vont être contents de voir ce film.
Ils vont être contents.
C'est vous qui avez fait
dans les Landes.
Ouais. C'est vous qui avez fait les repérages?
Oui.
Parce que c'est très très beau. On en parle juste après ça. Hélène Manarino arrive avec votre portrait inattendu. Fabien Antoniente, Culture Média, continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
100% bio, je ne sais pas si ça qualifie Fabien Antoniente. En tout cas, c'est le titre de son film qui passe ce soir sur France 3. Fabien, vous connaissez Hélène Manarino?
Oui. J'écoute tous les jours, figurez-vous.
Culture Média.
Oui, et après, je m'en vais au travail.
Après Hélène. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous. Bonjour Fabien Antoniente. Je suis là pour dévoiler donc presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Fabio, Gégé, vous avez fait du cinéma votre plus belle histoire d'amour. Cinéma populaire, italien aussi avec Fellini. Puis Claude Sauté, un cinéma que vous aimez.
Quand on n'a que l'amour pour unique raison.
Par le biais de La Voix de Brel, votre idole, alors ça tombe bien, un cinéma qui ne vous quitte pas aussi. On va parler de votre cinéma, celui que vous faites, tiens, dans votre vie. Ça commence par votre citron chaud pressé le matin, ou votre nouvelle passion, le café libanais, votre thé vert que vous buvez toute la journée.
Pardon, juste un mot. La tête qui fait alors qu'il vous écoute tous les jours.
Le café libanais,
vous prenez soin de vous. D'ailleurs, vous êtes un grand sportif. Vous passez même votre vie à acheter des vêtements de sport. Vous avez tout pour le vélo, le surf, le paddle, la marche nordique, le ski de fond, le ski alpin et bien sûr, le foot. Gourmand, oui, les pâtes à la vongolée de l'île d'Ischia. Et puis, votre cuisine, celle que vous avez essayée pendant le confinement, la recette de la blanquette de veau, par exemple. Et puis surtout, il y a votre four à pizza, chez vous, au Pays Basque, à Bidart.
Wow.
Vous n'avez d'ailleurs toujours pas réussi à faire des pizzas, vous êtes donc passé au pâte bolo.
Non, vous avez fait un four à pizza sans faire de pizza.
Mais c'est-à-dire qu'il ne marche pas.
Ah ouais,
je n'arrive pas à le faire marcher plutôt.
Non, bon, ça va être un prochain film.
Fabien Antoniente, pudique, entier, exigeant, impatient. Vous êtes surtout très croyant, alors dans vos rêves, oui mais pas que. Vous ne vous séparez jamais de vos 3 petites statues de Saint-Augustin. Même une à côté de votre lit. Vous avez aussi votre chapelet. Vous déposez des cierges dans toutes les églises.
C'est pas vrai.
Notamment dans la plus belle à vos yeux, l'église de Saint-Jean-de-Luz. Vous recueillir, réfléchir, être avec vous-même dans votre monde, là où votre cinéma ne s'arrête jamais. On l'a rapidement évoqué, mais c'est au Pays Basque, évidemment. Sa montagne, la rune, vos balades en vélo dans l'arrière-pays avec votre arrêt chez Patrick et Sandrine pour prendre la presse. votre petit café au proxy, et puis surtout ce dialogue avec un âne au bord de la route. C'est un peu votre âne d'ailleurs, vous allez le voir souvent, vous rêvez d'en avoir un, et il me semble que vous en avez un en peluche aussi.
Fabien, il se tient la tête, c'est un vrai âne ?
Vrai âne, oui. Et vous parlez... avec qui je converse certains matins.
Et vous lui dites quoi ?
Bah, je me confie. C'est-à-dire que je l'appelle de loin et il me répond. Alors, des cris un peu comme ça qui sont censés être celui de l'âne, et puis finalement il vient et on se parle.
Et il vous comprend.
Il me comprend.
Fabien Antoniente, votre vie est aussi marquée par la musique. Michel Legrand, Michel Delpech, Julien Clerc, Benjamin Biolay et puis surtout lui.
Je suis un gars ben ordinaire.
Robert Charlebois, ordinaire. Rien d'ordinaire, car vous avez la sensation que Robert Charlebois parle à votre place, parfois. Alors Fabien Antoniente, le cinéma c'est depuis toujours, malgré un papa strict qui souhaitait vous voir dans des études techniques. Votre maman, Alphonsine, vous a toujours encouragé, elle était complice de vos rêves. À 9 ans, vous découvrez que Michel Audiard débarque dans votre ville pour tourner un film. Vous y passez tous les jours, à tel point que le metteur en scène qui vous avait repéré vous a demandé une chaussette rouge pour les besoins du film. Ce sera finalement le clap de votre début. Peur de rien, vous avez aujourd'hui l'habitude de dessiner tous vos films avant de les tourner, parce que le dessin c'est là aussi depuis toujours. En classe, vous dessinez des bandes dessinées. Une a été d'ailleurs lue par votre professeur devant tout le monde. Fan de Goscinny, qui vous avait fait un dessin lors d'une soirée où vous l'aviez rencontré. Mais revenons-en au cinéma surtout. Et là, il va y avoir des scènes qui pourraient réellement être dans un film. Votre rencontre avec François Mitterrand, il vous invite au Palais de l'Élysée. Vous êtes avec toute une bande de jeunes comédiens. Vous dînez, il vous dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les enfants ?» Vous rêviez d'entrer au bain-douche. Ce fut fait ce soir-là, escorté par la garde républicaine avec le président en personne.
Non, vous êtes allé au bain-douche avec Mitterrand ?
Oui, parce que Marilyn, la méchante dame de l'entrée, ne voulait pas laisser rentrer. On n'était pas encore lookés. Ouais. On n'avait pas fait grand-chose. Et puis, quand Mitterrand dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les enfants ?»
Non, mais vous êtes entré au bain-douche avec
Marilyn,
Mitterrand.
Et Marilyn m'a laissé passer.
Wow.
C'était énorme. Mais Mitterrand n'est pas rentré. Hein. Il nous a accompagnés, escortés.
Il a ouvert la porte.
Deuxième scène de film dans votre jeunesse, une soirée en boîte de nuit avec Pierre Cossot, le petit copain de Sophie Marceau dans La Boum, en laissant allumer la couverture chauffante de la maison en partant, une maison prêtée par un ami. Quand vous êtes rentré, elle avait entièrement brûlé cette maison. Votre ami ne vous a pas cru et pourtant c'était vrai. Alors vous êtes fêtard, Fabien Antoniente, vos soirées à refaire le monde avec votre ami Frédéric Becbédé, ça se termine en battle de DJ évidemment. Des soirées surprenantes avec une fois Michel Houellebecq qui avait un peu bu et qui vous demandait systématiquement ça. De jouer Let It Be au piano. Mais attention, que l'intro, en vous répétant souvent, la poule, c'est cool. Alors,
non, c'est vrai. En fait, il nous demandait qu'on remette l'intro. C'est pas moi qui l'a joué.
Ouais.
Mais il nous a demandé 150
celle-ci.
Fois. Ouais. Non, au bout d'un moment, la 150e, c'était un peu long. Et là, bon, on l'a escorté, pareil. Moi, j'ai pris les bras, et Frédéric les pieds.
Et on l'a sorti comme ça.
Et la poule... sorti, mais ouais. Il m'a donné des coups de pied sur les côtes, qui étaient assez violents. Et on l'a posé. Et un an après, au mariage de Frédéric, il m'a dit « Je t'ai pas trop fait de mal avec mes coups de pied », il s'en rappelait encore.
Fabien Antoniente, vous êtes toujours rempli de rêves. Vous êtes considéré comme inclassable avec un cinéma qui ne va dans aucune case. Votre singularité a fait votre force. Un de vos livres de chevet, « L'art d'être heureux » d'Arthur Schopenhauer, c'est votre art qui vous rend comme ça, une parenthèse de bonheur, comme vous dites que vous ne souhaitez jamais refermer.
Merci beaucoup Hélène.
Merci
commentaire
beaucoup. Merci, c'est extrêmement touchant parce qu'on voit de l'extérieur que je suis assez éclectique et curieux de plein de choses de la vie et c'est le cas.
Vous étiez très touché, vous êtes passé du rire aux larmes, puis
ouais,
au rire.
Ouais, je suis très touché. Tous ces détails. Ces détails qui sont bien mis.
Merci beaucoup, merci Hélène. À demain, dans un instant, notre première indispensable, Angèle Châtelier, avec les albums les plus attendus de l'année 2021, et notamment le retour d'une grande pop star, Let It Be, je dis que ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du réalisateur Fabien Antoniente, 100% bio, c'est votre dernier film. Il passe ce soir sur France 3, c'est avec Didier Bourdon et Catherine Jacob. Et ça se passe au Pays Basque. Il y a beaucoup du Pays Basque dans 100% bio, il y a aussi de la musique. Vous êtes fan de musique basque ?
Je suis devenu.
Ça vous fait rigoler. Pourquoi ça vous fait rigoler?
Non, parce que honnêtement, quand on va à un concert qui dure à peu près deux heures, là où à un moment on craque, quoi, quand on n'est pas averti.
Ouais.
Et donc,
parce que c'est spécial comme musique,
c'est
non?
Spécial, oui, c'est spécial.
À un moment donné, il y a une séquence où le futur beau-père Didier Bourdon, le charcutier un peu bougon, un peu, c'est un euphémisme,
un peu
il est avec le gendre Thomas, ils sont assis et il lui fait écouter de la musique basque. Il y a même la pochette du disque, ça s'appelle Goriona, qu'on a cherché, ça n'existe pas.
Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de noms en hack, ouais. Donc j'ai inventé ce nom.
D'accord. Mais vous savez ce qu'on a fait? Parce que quelle musique vous avez passé?
J'ai passé une musique traditionnelle qui passe dans les mariages, qui est toujours la même d'ailleurs.
Parce que notre réalisateur Nicolas Souvent l'a chasamée et il l'a retrouvée et on a le titre pour
c'est
vous.
C'est pas vrai.
Mais si, c'est vrai. Egoak ebaki banizkion eurea izango zen. Faut que je raconte ce qui se passe si vous n'avez pas l'image sur europe1.fr. Fabien Antoniente est mort de rire et il se tapait sur la tête.
Non mais vous imaginez, parce que quand on est le gendre, il faut faire bonne figure,
ouais.
Donc il faut écouter ça jusqu'au bout avec attention, sans ouais. manquer de respect, et donc ça peut être un peu longué. Quoi.
Vous savez comment ça s'appelle le titre?
Non.
Je vais le donner pour les fans de musique basque, ça s'appelle Egoak,
voilà.
H-E-G-O-A-K. On a regardé, ça veut dire les ailes.
Voilà.
Vous le saviez pas?
Non.
Mais on va vous passer en entier après. Jusqu'à 11h. Vous restez. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Vous avez vu cet enchaînement tout
bien.
Trouvé? Mais moi aussi j'aime bien.
Oui.
Je trouve ça vachement bien. Surtout vous avez envie de pouvoir passer des vacances au Pays Basque sans vous faire crever les pneus.
Oui, voilà.
Sans vous faire crever les pneus.
Bon, ça pendant une heure, je suis pas sûre. Mais...
Angèle, plus sérieusement, c'est la rentrée pour l'actu musicale. On est content de vous retrouver. D'autant qu'avec vous, on va faire le point sur les albums attendus en 2021. Oui. Alors il y a qui?
Alors, eh bien, il y a Rihanna tout d'abord. So shine.
Mais Rihanna. Ça, c'est pas une nouveauté, ça.
Non, c'est pas une nouveauté. Mais Rihanna n'a pas dévoilé d'album depuis 2016. Elle qui a pourtant un rythme effréné de sortie depuis le début de sa carrière. Mais ça fait deux ans qu'elle dit à ses fans qu'il y en a un nouveau qui arrive. Ça devait être en 2019, puis 2020. Finalement, ils attendent toujours. Comme Elodie, une fan de 16 ans de la chanteuse que j'ai rencontrée.
En 2019, on attendait tous jusqu'au dernier jour, genre jusqu'au 31 décembre. On était tous en train d'attendre son album. Et quand on a vu qu'en 2020... elle avait toujours rien sorti, vraiment. Moi, je me suis sentie trahie par Rihanna. Genre, vraiment, ça m'a trop déçue.
Trop déçue, Elodie. Alors, le 1er janvier, Rihanna était en top tweet. Les fans déçus que l'année 2020 se soit terminée sans un nouvel album. Mais alors qu'Elodie et les autres se rassurent, un signe montre que c'est peut-être enfin pour cette année. Rihanna est apparue en duo en mars dernier sur un titre du groupe Party Next Door. The time is ours. Hey, believe me, all you know. Choose to believe me, all you want. If you leave me, I'm gonna burn. I'm dead, baby, you told me. Ce nouvel album de Rihanna devrait s'appeler R9 et si la pop star n'a pas encore donné de date, elle a promis qu'elle sortirait cette année un livre de cuisine. Voilà.
Pour le four et les pizzas.
Voilà.
D'Otoniente. 2021, dites-vous, devrait également signer le retour d'Adèle.
Le dernier album d'Adèle s'appelait 25, sorti en 2015, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est dire qu'un nouvel album est attendu et ça devrait être pour cette année. C'est en tout cas ce que la pop star a laissé entendre en octobre lorsqu'elle est apparue sur le devant de la scène dans une émission américaine, métamorphosée, 45 kilos en moins.
45 kilos en moins, qu'est-ce qu'elle a dit?
Eh bien, elle a conclu son passage dans l'émission en déclarant « Prenez soin les uns des autres et soyez bons avec vous-même. Je retourne dans ma caverne maintenant pour être la femme à chat célibataire que je suis. Allez, salut, à l'année prochaine !»
Enfin Philippe, une chose est sûre et certaine, c'est que 2021 sera l'année de Sia. La star australienne sortira Magic, son nouvel album, le 12 février prochain. Un nouvel album qui fera partie d'un projet plus global pour Sia, qui sortira aussi un film dans l'année.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Il y a quelque chose qui vous tente, Fabien Toniente, à part faire marcher votre four à pizza?
Je pensais à mon ami Frédéric Becbédé qui pourrait mixer Adèle, parce qu'il va fêter son œuvre dans un grand événement au Bataclan.
Oui, Bataclan en mars.
DJ avec DJ sur scène, et il va lire des textes de grands auteurs comme Cocteau et tout ça mis en musique. Donc
il y aura peut-être Adèle.
Et il y a un autre album qui est prévu, il y a Sting.
Oui, Sting, un album de duo prévu le 19 mars. Alors pour se mettre en bouche, Philippe, on l'écoute.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Clément, pour bien commencer l'année, vous avez préparé pour moi, pour les auditeurs, les auditrices et Fabien Antoniente, qui n'est pas du tout un gamer, une petite sélection des jeux vidéo les plus attendus de 2021.
Ouais, et vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Je suis même sûr qu'il y en a pour Fabien Antoniente.
Moi, c'est Super Mario, moi.
Ah, j'ai pas de Super Mario, mais je suis sûr que je vais vous convaincre. J'ai de quoi faire, parce que l'année formidable 2021 va être très riche. Hein, et on va commencer avec les franchises et les jeux qui reviennent plus ou moins régulièrement. C'est une habitude. Il y aura bien sûr l'habituel duel de jeux de foot, hein, entre FIFA et PES, un énième Call of Duty pour les amateurs de jeux de tir, et même un 12e Resident Evil pour ceux qui aiment se faire peur. Il y aura aussi des retours très attendus, un 7e Gran Turismo, le célèbre jeu de course automobile, ça faisait 3 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et puis l'agent 47, tueur à gages chauve avec un code-barre tatoué sur le crâne, adapté au cinéma notamment, revient également dans Hitman 3. Et même Prince of Persia s'offre un comeback, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de jeu Prince of Persia. On aura droit à un remake en fait des Sables du Temps qui est sorti en 2003. C'est le jeu le plus culte de cette saga qui est elle-même très culte.
Alors parmi ces gros jeux, Clément, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a que vous attendez particulièrement?
Oui, il y en a plusieurs, et je vous propose de mettre déjà un peu de magie dans cette année 2021, ça fera pas de mal, car oui,
ah oui
Philippe, ça y est, comme Harry Potter, vous allez recevoir votre lettre pour Poudlard dans le jeu L'Héritage de Poudlard. On arpentera les couloirs de la célèbre école de sorciers avec une histoire inédite située 200 ans avant la saga de J.K. Rowling.
La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Ce lien que nous partageons tous est l'héritage de Poudlard. Il est temps aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique. Et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers.
Voilà, on pourra tout faire, hein, enfiler la robe noire, choisir sa maison, plutôt Gryffondor, plutôt Serpentard, assister aux cours de potions, apprivoiser des animaux fantastiques. Bref, ça s'annonce vraiment très cool si vous aimez la saga Harry Potter. Et puis dans le genre jeu inspiré d'un film, il y aura aussi du Seigneur des Anneaux cette année sur console. Le héros, et oui, il y en a pas mal, des jeux assez régulièrement. Et cette fois, le héros, c'est un personnage qui est bien connu de la saga de Tolkien, mais pas forcément celui auquel on pense tout de suite.
Il est un nous. Un nous. Nous devons le reprendre. Patience. Patience, mon trésor.
Et oui, vous l'avez tous reconnu, on incarnera nous-mêmes Gollum dans le Mordor. C'est pas forcément le héros attendu, mais voilà, c'est une idée étonnante que moi, j'ai hâte de découvrir.
Alors là, on a fait le tour des grosses licences, mais je sais que vous aimez, Clément, les petits jeux originaux. Qu'est-ce que vous avez noté dans votre agenda?
Là aussi, il y aura de très belles choses. Par exemple, Stray, dans lequel on jouera un chat perdu dans une ville futuriste. Là aussi, c'est assez intrigant. Très beau miaulement, très belle imitation. Ou encore 12 minutes, c'est un jeu qui se déroule entièrement dans un appartement en vue du dessus, avec un homme qui est accusé de meurtre, coincé dans une boucle temporel. Il faudra l'aider à dénouer la situation. On jouera aussi avec le temps dans Deathloop, une production du studio lyonnais Arkane. On y incarnera Colt, un tueur à gages traqué par ses pairs sur une île soumise, là aussi, à une boucle temporelle.
Bonjour, Black Reef. Un nouveau jour, une nouvelle mort. Les boucles, c'est le pied. Pour tout le monde sur cette île, c'est le paradis. Une fête sans fin. Où me donner la chasse est l'attraction principale. Et peu importe comment j'essaie de m'échapper, il me chope toujours. Mais j'ouvrais tes données.
Voilà, et en fait, il faudra pour s'échapper abattre 8 cibles avant qu'elles-mêmes nous abattent. Et si on perd, et ben on recommence à zéro jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Le concept est alléchant. Alors, pour sortir de la boucle, ça sort en mai.
Merci beaucoup Clément Le Saff. J'ajoute qu'on peut retrouver tous ces jeux et les dates de sortie sur le site europe1.fr. Il y a un jeu qui vous a plu. Vous êtes fan de foot, FIFA, ça vous intéresse
ouais,
pas
FIFA, ouais, ça me plaît. Ouais.
Et football, classique.
Mais faut se mettre dedans, c'est pas facile. Hein. Faut avoir une dextérité que j'ai pas.
Ouais.
Et une patience surtout.
C'est de l'entraînement.
Football Manager.
Ouais.
On en parlera un jour, parce que Football Manager maintenant est utilisé, y compris par les entraîneurs des plus
tout
grands clubs.
Ah, oui.
Le jeu est totalement ancré dans la réalité. Dans votre film, tout est ancré dans la réalité.
Ah, oui.
La boîte de nuit, c'est une vraie boîte de nuit.
Oui, c'est
elle s'appelle vraiment la licorne.
Vraiment
le soleil des Antilles s'appelle vraiment le soleil des Antilles.
Oui, tout à fait.
Normalement, on change les noms.
Bah, c'est-à-dire que là, j'ai pris le loisir de les garder
ouais.
pour que ça fasse un peu dans son jus.
D'accord, bah, c'est bien dans le jus. Alors, on vous a un peu reproché de forcer sur les clichés. Il y a le rugby, il y a la force basque, il y a le surf. Vous répondez quoi à ça?
Ben, je réponds que c'est ce qu'ils pratiquent régulièrement. Hein.
C'est le Pays Basque.
Je ne fais que regarder ce que je vois.
Ouais.
Par exemple, quand je fais ma balade en vélo, je passe par le fronton, ça joue à la pelote. Ensuite, je continue mon chemin, je passe par le terrain de rugby, ça s'entraîne. Et puis, je finis par la plage, et ben ça fait du surf.
La vie à Bidart, ça fait rêver. Y a un autre cliché quand même, le gendre, il roule en voiture électrique.
Oui.
Quand il touche le tableau de bord, il se prend une châtaigne. Franchement, elles sont en plastique.
Oui, mais moi, ça me fait marrer.
Tant pis si c'est pas vrai.
C'est une licence poétique.
On a bien compris, je le précise, on ne prend pas de châtaigne électrique dans les voitures électriques. Merci beaucoup Clément Le Saff.
Avec plaisir.
À très très vite Fabien Antoniente, vous restez avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Fabien Antoniente, 100% bio, c'est votre film qui passe ce soir avec Lolita Chama, avec Didier Bourdon, avec Catherine Jacob. Ça raconte en gros la lutte, la confrontation entre les véganes, les bio, les amateurs de viande. C'est un combat qui vous intéresse, qui vous passionne. Pourquoi vous avez choisi ce thème, ce background comme on dit?
Ben parce que on parle de plus en plus de ça, comme je disais au préalable. Quand j'ai choisi de faire ce film, c'était il y a combien, 4 ans, le bio n'était pas encore ce qu'il était. Maintenant, dans le bio, c'est le cas de le dire, il y a à boire et à manger.
Ouais.
Donc maintenant, tout le monde se targue d'être bio, de manger bio. Il y a forcément une exagération qui m'amuse. Et donc, ça en arrive même à des extrêmes où des véganes attaquent des boucheries, où on est dans des espèces d'ayatollahs qui dirigent notre vie. Bon, moi, j'ai déjà un peu fait l'effort de manger moins de viande, de faire attention avec ce confinement au circuit court, faire attention à ce que l'on mange, qu'il y ait moins d'intermédiaires, et puis favoriser nos petits paysans. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas aller vers les extrêmes. Quoi.
Et il y a la scène où on tue le cochon qui est très très forte. Le cochon, il est pendu par les pieds. Vous l'avez endormi avant?
Oui, c'est un cochon endormi. On a pas maltraité les animaux. Et d'ailleurs, le cochon, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est depuis longtemps. Un cochon, ça peut nourrir toute une famille pendant un an.
Ouais.
Le charcutier que l'on présente préfère tuer son cochon plutôt que de les tuer en batterie. Et nous, Didier et moi, on préfère tout ce qui n'est pas en batterie, même les idées.
Et il y a une séquence formidable où il y a le gendre qui va discuter avec le cochon qui est pendu par les pieds. Séquence holistique et carrément, il l'endort comme un hypnotiseur.
En lui parlant?
Ouais, vous ne l'avez pas vu faire ça, vous l'avez inventé.
C'est inventé, oui.
Ou est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Parce qu'on voit un petit peu tout. Parce que des véganes qui attaquent réellement des boucheries, ça s'est vraiment passé.
Oui.
Je vous cite, au départ, ce film était prévu pour le cinéma, mais il sera finalement tourné pour France Télévisions. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a changé dans le cinéma?
Ben non, c'était il y a quelques années. Ce projet était pas en phase avec la demande de gens de cinéma. Donc je l'ai mis un petit peu comme pas mal de mes projets. J'en mets quelques-uns dans un tiroir. Et Didier m'a entretenu la flamme pendant ces
Didier Bourdon.
Oui, Didier.
Mais alors attendez, je vous interromps parce qu'au départ le film il était prévu Christian Clavier au casting et Josiane Balasco.
Oui, mais après ce casting étant un peu coûteux pour nous, on avait regardé la copie à deux fois et on avait diminué la voilure. Et Didier tombait carrément amoureux du rôle. Et comme ça fait des années que je rêvais de tourner avec lui, parce que je l'avais connu justement à cette grande époque de Smaïn, quand les inconnus étaient 5.
Ouais.
Et d'ailleurs, on avait une admiration pour lui, c'était le meilleur d'entre nous. Donc, ouais.
Voilà. Puis l'autre info que vous nous donnez, c'est que Didier Bourdon coûte moins cher que Christian Clavier.
Oui, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était plus facile de tourner avec Didier.
Et le cinéma, comment ça se passe pour vous maintenant? Je vais le dire, vous avez fait des cartons, après ça a un peu moins bien marché, et vous n'êtes pas toujours tendre avec le milieu du cinéma. J'ai retrouvé une interview de vous de Libé, c'était en 2013. Vous disiez, c'est un milieu très hostile, le cinéma aujourd'hui, composé à 70% de bons à rien, des mecs qui viennent des banques et des écoles de commerce. C'est pour ça que vous êtes passé à la télé ?
Non, pas que. Le milieu du cinéma, pour vous dire, c'est on dit du cinéma que c'est une grande famille, mais on est tous des orphelins. C'est-à-dire que c'est pas vraiment. Et justement, avec ce confinement, on a vu qu'ils s'arc-boutaient sur, enfin certains, hein, mm-hmm. on ne va pas généraliser, sur des principes que je trouve un peu anciens. Et il faut peut-être que le cinéma aussi se revisite.
C'est quoi des principes anciens d'un mot ?
C'est-à-dire que, par exemple, vouloir maintenir le Festival de Cannes à tout prix, alors qu'on était en pleine pandémie, je trouvais que c'était un petit peu contrariant avec ce qui se passait. Je pense que le cinéma doit faire partie de la société et doit comprendre ce qui s'y passe. C'est vrai que ça fait du mal.
Vous n'étiez pas à C'est à vous hier ?
Oui.
Avec Pierre Lescure ?
Oui.
Vous auriez dû lui dire que vous ne vouliez plus du Festival de Cannes, non, il aurait été content.
Je ne dis pas que je ne veux plus du Festival de Cannes. Non, je dis qu'en temps de pandémie, ouais. c'est pas d'une utilité absolue. Mais je suis très content quand même que le Festival de Cannes existe. Et j'ai regardé le documentaire sur Pierre Lescure, qui est un homme remarquable. Formidable. Ne mélangez pas tout.
Vous savez quoi ? J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de projets que vous. Il me reste une minute. J'ai décompté 8 projets. Vous allez me dire où ça en est. Sud-Ouest annonce le film Les filles de Charleville-Mézières.
Ça, c'est pas un film, c'est une série que je développe. Oui.
Autre projet, Les bijoux de la Kardashian d'après la BD, ça va se faire ?
Ça, pour l'instant, c'est un peu mis de côté parce que bon...
Vous n'avez pas la Kardashian. Voilà. Autre projet, Standing avec Isabelle Huppert dans le rôle d'une grande bourgeoise. C'est oublié.
C'est en train de muter en un autre film. C'est La cuisine à thème, c'est mon laboratoire intime.
Autre projet, on n'est même pas à la moitié, Astérix en Corse. Vous allez le faire.
Non, mais là vous avez été chercher les.
Non, janvier 2017, VSD. Bah, oui. C'est il y a 3 ans.
Mais vous savez, il y avait un appel d'offres et maintenant Astérix se fait en Chine, donc c'est pas le bon.
Autre projet, le film sur le Tour de France avec Omar Sy.
Oh, mais là, vous allez. Non, j'ai fait Laurent Fignon depuis.
D'accord. Et... Camping 4, qui doivent croiser avec les Tuches.
Non, ça n'aura pas lieu, non.
Bon, et Les enfants des Justes, d'après le roman de Christian Signol.
Ça, on va le tourner normalement cette année. C'est un film. J'ai toujours rêvé de faire un film en costume, et là, c'est un film pendant l'occupation avec Gérard Lanvin que je vais retrouver.
Il reste 10 secondes pour dire oui ou non. La Night, film sur la nuit avec Nicolas Bedos et Bec Bédé.
Oui, ça, c'était dans les années 2011, mon cher ami.
2014.
Il
va se faire ou pas ?
Ben non.
Vous savez, il y a des gens qui font des projets qui datent de 30 ans.
Oui, je sais, mais pas forcément moi.
Le projet, c'est ce soir, allumer France 3 et regarder 100% bio avec Didier Bourdon, Catherine Jacob, Lolita Chama. Ça, c'est pas la bande-annonce, hein. C'est pas non plus la bande-son, c'est juste de la musique basque, car je sais que vous adorez ça, Fabien Tonmonté. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h, évidemment, avec un programme inédit sur Sister, ça s'appelle Les Reines de la Rouste, de la route et non pas de la rouste. Vous connaissez ça ou pas ?
De la rouste, non.
Non, des camionneuses qui sillonnent les routes de France et d'Europe. On sera avec l'une d'entre elles, elle s'appelle Lexi, et on sera avec le patron des programmes de la Warner, Renaud Rahard, et puis le journaliste et écrivain François Reinhardt pour son livre La Grande Histoire des Nouveaux Mondes. Merci encore, Fabien Antoniette.
Merci à vous.
Anne Romanoff, tout de suite, ça fait du bien, et je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.